versets 22 à 24. Alors, c'est possible de retirer ça à l'écran ? Parce que sinon, tout le monde va regarder et se dire, oh, c'est le battement de mon cœur qu'ils enregistrent là ou quoi ? Jésus, ce sont les paroles de Jésus, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, vous savez, quand Jésus est venu, non seulement il est celui qui a versé son sang pour que nous soyons en règle avec Dieu, pour que nous recevions sa vie, mais ça ne s'arrête pas là. La question est, maintenant que j'ai un cœur nouveau, la vraie question est, comment est-ce que je fais pour vivre sur cette terre ? Parce que si vraiment je suis devenu quelqu'un de nouveau à l'intérieur, non pas parce que j'ai essayé de me changer, mais parce que Dieu a fait une œuvre en moi, il m'a changé. Ma question est, comment est-ce que je vis sur terre ? Parce que cela veut dire que je ne vois plus les choses de la même manière. Cela veut dire que je ne pense plus de la même manière. Cela veut dire comment, par exemple, avant je pensais au jour le jour, je pensais à ma petite vie, avant je pensais à tout ce qui concerne la terre, mais aujourd'hui je prends des décisions en fonction de l'éternité. Avant peut-être que je vivais avec un sentiment de culpabilité, avec un sentiment d'infériorité. Jésus a transformé mon cœur, m'a donné sa vie, je suis une nouvelle créature. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, je vis avec l'assurance que j'ai été acceptée et que Dieu est de mon côté et je réussirai tout ce que j'entreprendrai en son nom. Donc oui, bien sûr, je vais aller au ciel et mon éternité est garantie, mais dès ici-bas, je ne vis plus de la même manière. Et ce verset-là nous dit que quand on a un problème, ici qui est appelé une montagne, si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là, va se jeter dans la mer, la Bible nous dit que s'il parle à son problème, qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous déclare tout. Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé, quoi ? Tant que vous continuez à croire que vous avez reçu quand vous avez prié. Et la Bible nous dit que cette foi-là qui croit quand elle demande à Dieu qu'elle reçoit, c'est le genre de foi qui est en Dieu et c'est le genre de foi qui a créé l'univers. Ce genre de foi est en chacun des croyants nés de nouveau. La Bible nous dit que nous avons ce que nous disons. Le livre de la Genèse nous montre comment cet univers a été créé. Cet univers n'a pas été créé par M. Einstein. Cet univers n'a pas été créé parce que des hommes auraient développé des sciences quelconques avec une haute technologie. La Bible nous dit que cette Terre ressemblait à Mars, à Saturne, à Jupiter. Elle était informe et vide. Dieu a voulu que les choses soient différentes parce que cette Terre devait être un berceau pour l'humanité, était une adresse où l'humanité allait vivre dans le jardin d'Éden. Mais quand Dieu a vu cette terre qui était informe et vide, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il n'a pas pris la pelle et la pioche, il n'a pas commencé à labourer la terre, il n'a pas commencé à creuser jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. La Bible nous dit que Dieu a parlé les choses à l'existence. Dieu a voulu la lumière, il a dit « lumière ». Et la lumière a été. Dieu a voulu qu'il y ait une séparation entre la terre et les eaux. Il a appelé la terre sèche à l'existence, les eaux à l'existence. Il a mis une limite par sa parole. Dieu a voulu que les plantes soient, il les a appelées à l'existence. Dieu a voulu que la lune, les luminaires soient, il les a appelées à l'existence. Et la Bible nous dit maintenant, toi, tout ce que tu dis, tu l'as. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dans Genèse, chapitre 2, je vous le lis simplement. Il nous est dit, Dieu insuffla à l'homme une âme de vie et l'homme devint un être vivant. L'être humain, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, Dieu a façonné son corps comme une statue, comme un gisant. Vous avez déjà vu un gisant dans une église? Dieu a façonné le corps de l'être humain et ensuite la Bible dit, Dieu a soufflé dans les narines de ces statues et lui est venu dans cette statue de terre. Notre corps est fait de terre et la Bible dit, l'homme est devenu un être vivant. C'est pour cela que l'être humain a tant de valeur aux yeux de Dieu. Et que nous devons nous traiter les uns et les autres avec respect, parce que nous portons tous l'image de Dieu en nous. Mais quand il est dit « l'homme devint un être vivant », une autre traduction dit « et l'homme devint un souffle vivant ». Souffle, le mot « souffle » et « esprit » est la même chose. Nous sommes un être spirituel, nous avons une âme, et nous vivons dans un corps. Voilà ce qu'est l'être humain. Mais la traduction araméenne, donc Elos, dit « Et l'homme, quand Dieu a soufflé dans ce gisant, dans cette statue, la traduction araméenne dit « Et l'homme devint un être qui parle. » Les animaux communiquent. Mais les animaux, dans leur communication, avec leur son, n'ont pas cette capacité de créer. Nous, les êtres humains, nous l'avons. Alors, comme Dieu, notre parole est hyper importante. Ce que nous disons aux enfants est hyper important. Je me souviens d'une personne qui était venue à la maison, qui avait vu le cadre. J'ai changé des cadres à la maison et puis j'ai mis notamment, il y avait la photo de mon neveu. C'est un beau petit garçon. Et elle a vu, en tout cas, j'en ai deux, mais elle en a vu un des deux, les deux sont beaux, je vous rassure. Mais elle a vu cette photo et elle dit, ah, c'est un beau petit démon. Alors cette dame est déjà venue à la maison, elle a traité mon chien, « Ah, ce petit démon là, viens ici !» Et moi, j'ai dit immédiatement, « Oh, j'ai dit, ah non, c'est pas un démon, c'est plutôt un ange lui. » Parce qu'il est extrêmement gentil, il est obéissant, il est vif, il est intelligent. Mais à force de dire à un enfant, « Il est nul », il finit par le croire et il finit par l'être. Nos paroles ont tellement de poids, comme ce que l'on se dit dans un couple. Nos paroles ont tellement de poids. Les penseurs du Moyen-Âge ont dû choisir un terme pour qualifier l'homme et ils ont opté pour le mot hébreu « amedaber » qui veut dire « le parlant ». Ils ont choisi ce mot « le parlant » plutôt que le « pensant ». D'Aristote. Or, vous avez combien de gens qui vont vers Dieu et qui pensent, et ils croient que Dieu va exaucer leur prière parce qu'ils ont pensé fort. Oui, mais Dieu sait ce que je pense. Oui, mais ton monde est créé par tes paroles. L'univers a été... Vous savez, cette table se mange tout. Debout. Moi, je mange tout sur ce manche debout. Vous savez à quoi? Je pense que je peux manger. Non, parce que ça me faisait penser. Ma nièce, quand elle s'est mariée, avait mis des manches debout. Et c'était extraordinaire ce qu'il y avait dessus. Et donc, il y a toujours une connexion inconsciente qui existe sur ce... Sur ce manche debout, je mange tout. Vous l'avez compris. Mais vous savez comment se mange debout? Alors, que je fasse une gymnastique intentionnelle maintenant. Vous savez comment cette table a été construite? Vous dites, bah oui, c'est très bien. Il y a eu quelqu'un a pris du fer, quelqu'un a pris un appareil à souder, etc. Non, d'abord, quelqu'un a parlé. Oui, quelqu'un a dessiné d'abord. Mais tant que ça n'a pas été parlé, cette table n'a pas vu le jour. Tout dans ce monde est né à partir de la parole. Tout dans ton monde, ce que tu peux diriger, est construit à partir de ta parole. Alors, dans Proverbes chapitre 18, verset 21, la Bible confirme et la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. » C'est-à-dire que peu importe ce que les gens disent de toi, tant que toi tu choisis ce qui va sortir de ta bouche, tu connaîtras la vie ou la mort. La mort n'est pas forcément la séparation physique avec ton corps qui est enterré quelque part. La mort, c'est la vie et la mort sont au pouvoir de l'homme. La mort dans une famille, quand la famille se déchire. La mort dans les finances, quand une entreprise se démène financièrement. Ça peut être la confusion est une forme de mort. La dépression est une forme de mort. Et la Bible nous dit que la vie, tu veux la vie dans ton couple, tu veux la vie dans ton corps, tu veux la vie dans ta famille, tu veux la vie à ton travail, tu veux la vie à l'école de tes enfants, tu veux la vie avec tes clients. La Bible dit que ça doit passer par ce que tu parles. Mais très souvent, on dit, ah oui, mais tu comprends, si je n'arrive pas, c'est parce que l'économie n'est pas bonne. La Bible dit la vie est au pouvoir de ta langue. Si l'économie n'est pas bonne, grâce à ce que tu dis sur toi-même, grâce à ce que tu prononces sur ton entreprise, grâce à ce que tu prononces sur ton école, dans ton quartier. Vous savez, il y a tellement, par exemple, il y a des personnes qui habitent dans des quartiers où il y a des tas de graffitis. Alors, il y a des graffitis qui sont véritablement des œuvres d'art. Je suis épatée. Mais vous savez, toute œuvre d'art, d'abord, est relative. Hein, et ensuite, eh bien, on ne peut pas utiliser un bien public et dire, ben, je me l'approprie. C'est là où... Mais il y a des quartiers où la ville a dit, bien, dans ce quartier, par exemple, vous allez à Marseille, il y a un quartier où dans les rues, il y a des graffitis. Et c'est autorisé, c'est encouragé. Et c'est vraiment artistique. C'est magnifique. Mais si vous habitez dans un quartier où il y a des graffitis qui sont des actes de vandalisme, au lieu d'insulter tout le monde et au lieu de vous énerver, pourquoi ne déclarez-vous pas la vie dans votre quartier? C'est-à-dire, dites, je déclare, mon quartier est un quartier qui est propre. Je déclare aucun vandalisme. J'interdis le vandalisme dans mon quartier. Je déclare que c'est un quartier qui prospère. Je déclare que c'est un quartier qui est en paix. Et la Bible dit, oui, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Le problème, c'est que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, oh là là, j'en ai marre ici, regarde un peu les jeunes. Et vous les jeunes, là, vous ne pouvez pas aller ailleurs, vous ne faites que des bêtises. La mort est au pouvoir de la langue. Mais beaucoup de... L'être humain est un être parlant. Pas pensant d'abord, parlant. Et pour changer quelque chose dans ta vie, Dieu a besoin de tes paroles. Dieu ne peut pas faire sans. Nous allons prendre l'exemple de Job. Alors Job, Cet exemple-là est tiré d'à peu près, c'est arrivé à peu près il y a 2100 ans avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 4000 ans. Et parce que la Bible est un livre universel, on peut apprendre quelque chose qui s'est passé il y a plus de 4000 ans. Alors, ce que je vais enseigner là va probablement à l'encontre. Ça va un petit peu dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Dieu m'a donné, Dieu m'a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Ça, c'est. Il faut comprendre que quand Job a dit ces paroles, il ne savait pas ce qu'il disait. Mais ici, on a un épisode où Satan est en train de parler à l'Éternel et Satan est en train de réclamer le droit de ruiner la vie de Job. Qui a déjà lu le livre de Job? Qui a été confus, voire perturbé par cette lecture? Eh ben, j'espère que ça va éclairer votre chandelle aujourd'hui. Hein. Et donc l'Éternel dit à Satan, d'autres versions disent l'Éternel dit à l'accusateur. Est-ce que vous vous sentez accusé dans votre vie? Ce n'est pas Dieu qui vous accuse. C'est Satan, l'ennemi des êtres humains, l'ennemi de Dieu. Et l'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre son motif. Une autre version, parce que vous savez quand les gens lisent cela, non je vais un peu trop vite, hein. Une autre version dit, c'est donc pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. Une autre version, le Seigneur lui dit à l'accusateur, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher, il me respecte, il évite le mal. Il continue à se conduire parfaitement et c'est sans raison que tu me pousses à le détruire. Ici, d'un côté, nous avons Job qui est affairé aux affaires de la vie. De l'autre, Dieu est occupé à ses propres affaires. Et Satan se pointe et il essaie de monter l'un contre l'autre. Ça lui ressemble, oui. Et ici, en fonction de ce que nous comprenons de la nature de Dieu, on peut faire dire à Dieu exactement l'inverse de ce qu'il est en train de dire. Et ici, qu'est-ce que Satan est en train de faire? Eh bien, Dieu le dit clairement. Il est en train d'inciter Dieu à faire quelque chose d'injuste vis-à-vis de Job. Satan est en train de dire, bah, vas-y, vas-y, vas-y. Et Dieu dit, mais attends, moi... J'ai rien contre Job. Il est en train de faire ce qu'il a à faire. J'ai aucune raison. Je refuse ça. Dans ce passage-là, on peut arriver à trois mauvaises conclusions. La première, c'est que Dieu aurait ruiné Job. Qui a entendu dire Dieu a ruiné Job? Vous savez, Job est un des personnages les plus connus, même parmi ceux qui ne croient pas en Dieu. On parle du pauvre Job. Vous avez entendu ça? C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il est arrivé tant de malheurs à Job, qu'il a été défiguré par la maladie, qu'il a été ruiné, qu'il a perdu ses enfants. Oui, seulement ce que l'on oublie de préciser, c'est que ça a duré entre 9 mois et 1 an. Ça n'a pas duré toute sa vie. Non seulement cet épisode de catastrophe, les unes après les autres, n'ont pas duré pendant toute la vie de Job, mais la Bible nous dit qu'à la fin, quand Job a prié, non seulement ses amis ont été bénis, mais lui, tout ce qu'il avait avant la catastrophe a été restauré, multiplié par 2. Et c'est Dieu qui a restauré. Donc, ça n'est pas le pauvre Job tel qu'on en entend parler. Ici, on pourrait croire que c'est Dieu qui a ruiné Job. Tu m'incites à lui faire du tort, tu m'incites à le ruiner. Cette phrase, on pourrait dire que Dieu accepte le marché avec Satan. Comme si Dieu et Satan étaient en train de négocier la vie de Dieu, de Job. Non, Dieu n'a pas ruiné la vie de Job. Et en plus, d'après ce passage, on pourrait croire que Dieu a ruiné la vie de Job, et puis en plus, sans motif précis. Et la troisième mauvaise conclusion serait de dire, bien Dieu a ruiné la vie de Job sans motif précis, en plus parce que c'est Satan qui l'y a poussé. Et là, on se dit, mais je crois en quelle espèce de Dieu? Moi, je ne pourrais jamais croire dans un Dieu qui me veut du mal. Je ne pourrais pas croire dans un Dieu qui est prêt à me tuer si je ne fais pas ce qu'il me demande de faire. Et on sait que ça n'est pas possible parce que la nature du Dieu qui est révélée à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible, est la nature d'un créateur père. Quel père ferait du mal à ses enfants? Même dans notre société d'incroyants, un père qui maltraite son enfant est enfermé. On a ce bon sens. Non, le Dieu de la Bible est le Dieu créateur de la terre et de l'univers qui a un cœur de père. Donc ce cœur de père n'a pas pu ruiner la vie de Job. Mais en tout cas, c'est ce que Job a pensé. Job a cru ce mensonge que c'est Dieu qui avait ruiné sa vie. Parce que Job, il est dit, je vous le lis dans ce verset 27, chapitre 27, verset 2, Job dit, « Dieu qui me refuse justice est vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. » Est-ce que c'est vrai que Dieu est injuste? Encore une fois, Job est quelqu'un qui a cru cela. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui lisent et qui croient ce que Job a dit. Job, la pensée de Job est retransmise, non pas parce qu'elle était vraie, mais elle est dans les Écritures pour que nous tirions une leçon, que nous apprenions de la vie de Job. Est-il vrai que Dieu est injuste? Mes amis, non et non. Parce que vers la fin de ce livre, au chapitre 34, il y a un ami de Job qui lui dit « Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. » Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. C'est-à-dire qu'il y a un ami de Job qui connaît Dieu et qui dit, qui est en train de reprendre Job et qui dit, tu sais, tous les malheurs qui te sont arrivés, ne va pas croire que c'est parce que Satan a réussi à passer un deal avec Dieu et que c'est Dieu qui te les a envoyés, ces malheurs. Il dit, ne crois pas ça, Job, loin de là de dire que Dieu est un Dieu injuste. Oh, combien ce message a besoin d'être prêché? D'ailleurs, qui a affligé à Job tous ses malheurs? Il est dit dès le départ, chapitre 2, verset 7, « Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. » La différence, c'est quand la Bible nous a dit, on l'a lu tout à l'heure dans l'épître de Jacques, c'est que quand Dieu nous donne quelque chose, tout don parfait descend d'en haut. La Bible nous dit que l'onction descend d'en haut et coule sur la barbe d'Aaron jusqu'à ses pieds. Et ici, la Bible nous dit que quand Job a été malade, c'est venu depuis le bas jusqu'en haut. Et il nous est dit ici, ça n'est pas Dieu. Dieu ne rend personne malade. Comment pourrait-il donner la maladie à quelqu'un quand lui-même est bien portant? Mais il nous est dit ici, c'est l'accusateur qui l'a fait. Mais on pourrait dire, mais alors Dieu a dû donner la permission à Job, à Satan. Vous savez comment l'ennemi de l'humanité, les gens disent, oh, ils pensent qu'il y a Dieu et puis il y a les hommes. Et après, on se débrouille, on fait un peu ce qu'on peut. Non, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs entités qui, sur cette terre, cherchent à influencer le monde. Il y a Dieu qui, par l'Esprit Saint, essaie de toujours influencer les hommes vers la vie. Et puis, il y a cet esprit mauvais qui s'appelle Satan, qui veut dire le mot accusateur. Ailleurs, dans les Écritures, il est appelé l'adversaire. Et l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 10, nous dit que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. C'est-à-dire que celui qui influence, qui inspire les gens à tuer ou à se tuer, c'est une idée, se tuer est une idée qui est tellement démoniaque qu'elle n'a pas une origine humaine. Elle vient de l'extérieur. Tuer est une idée qui vient de l'extérieur de l'être humain. Qui ruine la vie des familles? Qui apporte la dévastation dans un pays? Qui suscite la rébellion des enfants contre les parents? Qui est celui qui rend malade? La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qui vole un enfant à ses parents? Le voleur ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Mais si le voleur, écoutez bien, on dit oui, mais Dieu lui donne la permission. Alors si un voleur a la permission de voler, ça n'est plus un voleur. Parce que c'est quelqu'un qui obéit. C'est un subalterne. Pour que quelqu'un soit appelé un voleur, il faut qu'il n'ait pas la permission de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Dieu n'est pas celui qui a volé la santé de Job. Dieu n'est pas celui qui a volé la prospérité, qui a détruit la prospérité de Job. Mais on sait, au chapitre 1, verset 12, que l'Éternel a dit à Satan, ben voici, tout ce qu'il lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Au chapitre 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. C'est-à-dire, il y a une limite, tu ne peux pas le faire mourir. On dit, ben tu vois, pasteur, Dieu est celui qui a dit à Satan, ben allez, vas-y, tiens, débrouille-toi, voilà, je te donne Job. Non mais c'est mesquin, vous imaginez, c'est comme un père disait à un ravisseur d'enfants, un pédophile, je te donne mon fils. Non mais attendez, c'est grâce que l'on peut accepter de penser de Dieu. Dieu n'était pas en train de dire à l'accusateur, je te donne, allez vas-y, tiens, je te donne cet être humain, fais ce que tu veux, ruine-le, amuse-toi avec. Hop, un coup de pied par ici, hop, un coup de pied dans sa famille, hop, il tue ses filles, hop, il ravage sa prospérité. Non, Dieu était en train de dire, tu sais, je ne peux pas faire autre chose que de te laisser faire ce que tu veux faire. Il dit, je ne peux pas faire autre chose. Mais ma question est, pourquoi Dieu n'a pas pu empêcher cela? Et vous le savoir ou vous êtes prêt à rentrer à la maison? Ok, alors dans ces cas-là, je vous donne rendez-vous dimanche et nous verrons la suite. Aïe, 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 parce que la Bible nous dit au chapitre 1, verset 10, que Dieu avait placé un mur de protection tout autour de Job. Aujourd'hui, nous, quand nous avons accepté Jésus dans notre vie, le sang que Jésus a versé est le sang d'une alliance. Et l'alliance garantit notre protection. Nous aussi, nous avons un mur de protection autour de nous. Et pourtant, le Seigneur est en train de dire, eh bien, je ne peux pas, il y a une brèche dans ce mur de protection. Ben, il vaut mieux que vous et moi nous apprenions ce qui peut ouvrir une brèche dans le mur de protection que nous avons autour de notre vie. Cherchons à apprendre quelque chose de ce qui s'est passé dans la vie de Job. Regardez avec moi dans Job chapitre 1, verset 5. Vous apprenez quelque chose là? N'oubliez pas, hein, vous pouvez réécouter à volonté les messages gratuitement sur le site. Et... il est dit, les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand repas, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt le matin, il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, quelqu'un dit, il se disait, mes enfants ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Je vous donne une autre traduction. Une autre traduction dit, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Donc, il faut imaginer, la Bible nous dit que Job était l'homme le plus influent de l'Orient. Vous imaginez? Donc, quand la vie de Job a été ruinée, ça s'est su de partout. Or, Job était connu pour être quelqu'un qui craignait Dieu, parce qu'il nous est dit qu'il offrait des holocaustes, il offrait des sacrifices à Dieu. C'est quelqu'un qui faisait ce qu'il savait devoir faire vis-à-vis de Dieu. Et il était connu pour être un croyant, partout. Sa prospérité était connue comme étant la bénédiction de l'Éternel sur sa vie. Donc vous imaginez que quand l'accusateur a ruiné sa vie, c'est le nom de Dieu qui a été méprisé. Regarde-moi un peu, tiens. Et Job qui allait de partout en train de dire « Dieu m'a donné, Dieu m'a repris, béni soit le nom de l'Éternel ». Vous imaginez? Et là, la Bible nous dit que la famille de Job, qui était une famille très aisée, ben ses fils, au moins eux, profitaient de cet argent. Et sa famille faisait la fête. C'était des gens qui aimaient s'amuser, qui avaient toujours une occasion pour se retrouver en famille et faire la fête ensemble. Et dans cette version, il est dit, « Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est-à-dire, qu'est-ce que Job faisait? Job savait que la bénédiction de Dieu était sur sa vie. Job savait qu'il y avait un mur de protection autour de lui et sa famille. Job savait à qui il devait son succès, mais il avait peur que le péché de ses enfants ouvre une brèche dans le... que Job est quelqu'un qui avait peur. Job est quelqu'un qui cherchait à faire tout, à faire de bonnes œuvres. Job est quelqu'un qui cherchait à mériter la protection en sans cesse, lui faisant bien et en choisissant de vivre la vie pour ses enfants. Et Job est quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire, oh, peut-être qu'il a péché, peut-être que si, peut-être qu'il ne réussira pas dans sa vie parce que peut-être qu'il a péché, peut-être qu'il sera malade parce qu'il n'a pas bien fait les choses, peut-être que mes filles ne réussiront pas, n'auront pas d'enfants parce qu'elles ont péché, peut-être que si, peut-être que ça. Et sans cesse, Job était dans la peur. Et la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance. C'est-à-dire quand quelqu'un a peur, et il le faisait à chaque fois. Donc, il vivait dans l'angoisse, il vivait dans l'anxiété. Et c'est certain que Job a fini par le dire. Vous vous rappelez de quoi on parle? On parle de la foi, on parle de l'importance de nos paroles. Vous vous rappelez que tout à l'heure, nous avons lu « La vie et la mort sont au pouvoir de la... » Pas de l'économie. Ta vie ne dépend pas de l'économie. Ta vie ne dépend pas de ton travail. Ta vie ne dépend pas de la santé de ton père, de ta grand-mère, de ton grand-oncle. Ta santé dépend de tes paroles. Ton standing de vie dépend de tes paroles. La paix à la maison dépend de tes paroles. Et Job est quelqu'un qui n'arrêtait pas de craindre. Et regardez ce qu'il est dit. Verset 3. Verset 3. Donc là, arrivé au chapitre 3, la vie de Job est une ruine, une plaie ouverte de catastrophe. Chapitre 3, verset 25-26. Job lui-même dit de lui-même. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. Vous rappelez que tout à l'heure dans Job chapitre 1, nous avons lu, car Job disait. Qu'est-ce que Job disait ? Il disait qu'il avait peur. Il n'arrêtait pas de parler de ses peurs. Il n'arrêtait pas de parler de ce qu'il redoutait. Il redoutait que son standing de vie baisse. Il redoutait qu'il perde la protection de l'Éternel. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Pourquoi l'Éternel a-t-il dit à l'accusateur, « Eh bien voilà, je te le livre, mais ne le fais pas mourir. » Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas pu faire autre chose. Dieu n'a pas pu protéger Job parce que lui-même est celui qui a abattu le mur de protection. Et quand le diable a réalisé que par ses propres paroles, il avait abattu le mur de protection, ben le diable s'est engouffré. Et Dieu a dit, ben, je te le livre, je ne peux pas faire autre chose. Tout ce qui lui appartient, ben oui, il l'a dit lui-même. La pire des choses, quand on a une idée de peur, c'est de parler cette peur. Pourquoi ? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que Dieu est celui qui a ruiné Job ? Non, il a tout fait, il l'a béni. Quand Job a dit « Dieu donne, Dieu reprend », il a cru que Dieu était comme cela. Et à la fin de cette année-là, ou de ces 9 mois, il a dit, c'est quoi, j'ai parlé, mais je ne sais pas de quoi je parlais. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu est tellement juste qu'il est obligé de laisser faire ce que tes paroles ont dites quand elles sont sorties de ta bouche. C'est énorme. On est en train de parler, de continuer avec le sujet de la foi. Et quand le diable essaie de te faire peur de quelque chose, tu vas mourir. La pire des choses est de parler cette peur. Mais la pire des choses est de ne rien dire aussi. Pourquoi ? Ben parce que ta santé dépend, la vie dépend du pouvoir de ta langue. Donc qu'est-ce que l'on fait ? On prend la vérité qui est dans ce livre et on dit, en fait, qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Dieu a promis qu'il me rassasierait de longs jours. Si tu es rassasié de ta vie sur terre, tu vas au ciel, pars. La vie est bien meilleure là-bas. Je répète, la vie est bien meilleure au ciel. Mais si tu n'es pas rassasié de jours, dis-le et déclare. Non, je ne suis pas, non, je n'ai pas accompli tout ce que Dieu voulait. Non, je n'ai pas encore vu tout ce que je voulais voir. Je n'ai pas encore vu tout ce que Dieu voulait pour moi, pour ma famille. Non, je n'ai pas envie de partir. Eh bien, dis-le, par la vie, je déclare, j'ai une bonne santé. Je déclare que mon Dieu est celui qui me rassasie de longs jours. Je déclare que je vivrai jusqu'à avoir mes arrière petits-enfants. Bon, il faut aussi des limites, hein. Mais la Bible dit que Dieu nous a promis 120 ans sur terre. 120 ans, on peut dire qu'on a le temps d'être rassasié. Hein. Et comme les gens, ils se préparent à mourir à 80, qu'est-ce que tu veux ? Et en plus, les gens le disent, « Ah, moi, tu sais, allez, Alors après, ils commencent à parler de tous les maux qu'ils ont. Oh, tu sais, j'arrive plus à faire ceci, j'arrive plus à faire cela. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Et même Dieu ne peut pas aller contre ce que tu dis. Donc, soyons intelligents, comme a dit Eliaou à Job. Écoutons, soyons des gens de bon sens et disons ce que Dieu dit de nous. Dieu a dit, si tu médites la parole, je te donnerai le succès. Parle le succès sur ton entreprise. Parle ton chiffre d'affaires. Parle le nombre de clients que tu veux voir. Parle la réussite de tes examens. Parle ce que tu veux voir. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ça n'est pas valable que pour les chrétiens. C'est valable pour l'humanité entière. L'homme est un être parlant. C'est énorme. Je vais vous lire maintenant. L'Éternel dit à l'adversaire, « As-tu mis ton cœur à mon serviteur Job parce qu'il n'y a personne comme lui dans le pays ?» Donc Dieu est en train de se vanter de Job. Il dit « Un homme parfait et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il est toujours intègre. Et tu me pousses contre lui pour l'engloutir pour rien ?» Dieu est en train de dire à Satan, « Non, tu n'arriveras pas à me monter contre Job. Tu n'arriveras pas à me pousser à être injuste vis-à-vis de lui. » La Bible, le message dit, « As-tu remarqué mon ami Job ? Il n'y a personne comme lui d'honnête et fidèle à sa parole, totalement dévoué à Dieu et détestant le mal. Il a toujours une emprise sur son intégrité. » Tu as essayé de me piéger pour le détruire, mais ça n'a pas marché. Vous aimez Dieu, vous avez une alliance avec lui, le diable ne pourra jamais inciter Dieu à vous faire du mal. Dieu ne tombera jamais, 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 jamais dans le panneau. Jamais. En revanche, lui, il a été fidèle, il a mis un mur de protection autour de nous. Nous sommes les seuls, par nos paroles, à abattre ce mur de protection. Chrétien ou pas. En revanche, quand le diable essaie il vient avec des circonstances négatives, il vient il crée des problèmes dans ta vie, ça n'est pas ce que beaucoup de gens passent leur temps à prier. Ouais, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et pendant ce temps, ils disent l'inverse de ce que Dieu dit. Oui, on prie et on dit, Seigneur, donne-moi une solution pour sortir de là. Seigneur, donne-moi une solution pour mon entreprise. Seigneur, donne-moi la sagesse vis-à-vis de mes enfants. Donne-moi une direction pour les aider dans leurs études. Seigneur, aide-moi avec ma santé. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais changer dans ma manière de manger, de vivre ? Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et ensuite, on déclare ce que l'on veut voir. On est loin d'être des victimes, nous les êtres humains. Nous sommes loin d'être des victimes, mais nous pouvons être assurés que Dieu est pour nous. Amen. Et jamais, 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 il ne fera quelque chose d'injuste vis-à-vis de nous. Jamais. Dieu ne se rabaissera jamais. Il perdrait son trône. Ça ne risque pas d'arriver, cette histoire. Il est intègre. Et on a raison de lui faire confiance. On a raison de chercher à le connaître. Alors, moi je vous dis bonne méditation. Je vous encourage à mettre en pratique ces paroles et à prendre au sérieux la direction que vous donnez à votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Et Dieu nous a dit, dans le livre aux Romains, il veut que tu règnes dans la vie. Et la manière de régner, c'est de dire ce que Dieu dit. Alors, si vous avez prononcé des paroles de peur sur votre vie, vis-à-vis de votre futur, vis-à-vis de votre avenir, si vous avez articulé des paroles de doute, Eh bien, la Bible dit « repentez-vous ». Se repentir, ça ne veut pas dire hurler ses péchés. Se repentir, ça veut dire changer de direction. Arrête de faire ce que tu fais. Change ta manière de parler. Change d'abord ta manière de penser. Et aligne-toi sur ce que Dieu dit de toi. Vous voulez répéter après moi ? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Sais-tu ce que Dieu dit que tu es ? Répétez, je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Saint-Esprit, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous apprend à vivre sur cette terre. Tu es celui qui nous parle, tu es celui qui nous rend vainqueurs. Tu nous apprends à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Aucun n'est trop grand pour toi, donc aucun n'est trop grand pour nous. Je te remercie, mon Dieu, de ce que tu nous apprends à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Tu es celui, Seigneur, qui est bon. Je prie afin que ce que les uns les autres ont entendu ce matin reste dans leur cœur et que cela produise du fruit pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, amen. Alors, si, rappelez-vous, vous pouvez réécouter ce message et réécouter.